merci aux organisateurs de leur invitation. Je ne vais pas exactement parler de ce qui est indiqué sur mon résumé. Autrement dit, j'espérais pouvoir faire un exposé qui soit du type de ce que Peter Simons appelle la méthode historico-critique, c'est-à-dire qui mélange des considérations historiques avec des considérations critiques. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop pour un seul même et même exposé. Donc je vais me contenter en fait de faire des remarques essentiellement critiques et descriptives portant sur la philosophie de John Dewey en relation avec le thème. Merci monsieur. Je voudrais parler de Dewey, qui n'est pas le personnage indiqué par ce cartoon. Et je vais en parler en français, même si effectivement le cartoon devrait m'inciter à prendre l'accent de Donald Duck. Alors, dans la vie quotidienne, le doute, l'incertitude, le manque d'assurance ne sont pas des choses désirables. Nous n'aimons pas avoir des doutes sur le traitement que nous prescrit notre médecin, ni des incertitudes sur l'heure où partira notre train. Et si nous souscrivons à des assurances, c'est pour être assurés et rassurés. Quand quelque chose ne va pas, le vendeur nous dit « pas de souci ». Et les produits sont garantis, certifiés, fiables, etc. On cherche la sécurité. Mais curieusement, dès qu'il s'agit de la vie intellectuelle, la perspective semble se renverser. Les livres que nous lisons, surtout ceux d'idées, souvent les livres de philosophie, doivent, nous dit-on, bousculer les certitudes. Les romans et les œuvres d'art doivent nous inquiéter. Et il n'y a rien de pire que de s'entendre dire, quand on est dans les matières intellectuelles, morales ou artistiques, de s'entendre dire qu'on est dogmatique, sûr de soi, et enfermé dans le confort intellectuel. Donc autant la vie quotidienne craint l'insécurité, autant la vie de l'esprit semble devoir être placée sous le signe de l'incertitude, du risque et de l'aventure. Gide, maître à penser de toute une génération, ne se définissait-il pas comme un inquiéteur? Ces exigences qui étaient celles du romantisme littéraire sont en fait bien devenues celles de la philosophie. Elle semble avoir pris, elle aussi, comme idéal, l'incertitude. Nietzsche ne parlait-il pas de la recherche de la vérité comme d'une entreprise très dangereuse? Et un fameux penseur français n'a-t-il pas dit que la philosophie française des années 50 était une aventure? Il n'est donc pas totalement étonnant que John Dewey, qui critiqua l'idéal de certitude en philosophie et prôna une philosophie de l'expérience radicale, soit devenu un héros de notre temps. Un article du Nouvel Observateur de 2014 nous explique que Dewey est le philosophe qui inspira Obama. Quelques lignes plus loin, l'auteur livre un scoop plus intéressant pour les lecteurs français. Dewey inspire Bruno Latour, le penseur de l'action et des réseaux. Rorty, comme on le sait, loua Dewey pour avoir rejoint les thèmes heideggeriens. Dewey semble avoir tout donc pour plaire à une époque post-wittgensteinienne, c'est-à-dire anti-métaphysicienne et anti-fondationaliste, car il nous invite à renoncer à toute quête de fondement ontologique et épistémologique en prenant une conception vérificationniste de la vérité et en rejetant l'idéal cartésien de certitude au nom d'un faillibilisme radical. Il adopte un naturalisme et un externalisme social et une conception de l'éducation qui promeuvent l'individu comme membre d'une communauté d'expérience au nom d'une conception dite profonde de la démocratie. C'est pourquoi son pragmatisme semble si attirant à ceux qui se remettent mal du postmodernisme et qui cherchent des philosophies de substitution light et œcuméniques, et surtout qui croient que le rôle de la philosophie est de s'adapter à l'ère du temps. La théorie de la connaissance de Dewey, qui m'occupe ici, n'est pas la partie la plus populaire de son œuvre. C'est pourtant celle à laquelle Dewey a consacré le plus de travaux d'obédience philosophique. Experience and Nature, Reconstructions in Philosophy, Logic, Essays in Experimental Logic et surtout The Quest for Certainty, qui a été traduit très bien récemment en français qui sont des œuvres portant sur la connaissance. Et notamment, le second chapitre de Experience and Nature s'appelle « Précarité et stabilité de l'existence » et fait valoir le précaire et le dangereux comme des traits fondamentaux du monde empirique. Alors, comme on le sait aussi, de son vivant, Dewey fut le philosophe américain le plus influent, et dans une très large mesure, il incarna la philosophie américaine. Mais il subit de la part des philosophes anglais, et de Russell en particulier, des critiques très dures. Russell s'était déjà attaqué au pragmatisme de James dans ses essais philosophiques de 1905, et lorsqu'en 1940, il eut l'occasion d'écrire dans la Library of Living Philosophers sur Dewey, il lança une attaque dont je vais parler dans un instant et que je vais essentiellement citer. Il revint là-dessus dans son Inquiry into Meaning and Truth, où il attaque la conception vérificationniste de la vérité de Dewey, sa théorie de l'enquête et de la science. Dans les années 50, quand la philosophie analytique et le positivisme logique devinrent influents aux États-Unis, l'étoile de Dewey pâlit. Mais elle a recommencé à briller depuis quelques décennies, depuis que, comme on sait, les dogmes positivistes et analytiques furent eux aussi battus en brèche. Par exemple, la distinction de l'analytique et du synthétique, du fait et de la valeur, la critique du donné et de son mythe, soi-disant, et surtout le fondationalisme en épistémologie. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement essayer de présenter ces thèses du Dewey-Yen et de les situer par rapport aux problématiques contemporaines en épistémologie. Je ne ferai pas, comme je l'ai prétendu faire dans mon descriptif, de défense de la conception de la certitude, mais je pense qu'il y aura dans ce colloque suffisamment d'exposés pour prendre la défense de la thèse pour laquelle j'ai moi-même le plus de sympathie, c'est-à-dire l'anti-faillibilisme et l'anti-pragmatisme en épistémologie. Une bonne partie d'ailleurs de ce que je dis pourrait s'appliquer à Peirce, même on peut considérer que Peirce est une sorte de Dewey riche, Dewey étant un Peirce pauvre. Alors, essayons de décrire quelques-unes des thèses de Dewey d'abord. Je ne peux pas, évidemment, pas me lancer dans quelque chose de trop... Donc je parlerai d'abord des thèses de Dewey en épistémologie, je parlerai de la critique de Russell, je dirai quelques mots de la notion de sécurité et de certitude, j'essaierai, juste sur le bord du précipice, de sauver Dewey, mais finalement je suggérerai qu'il ne l'est pas. Alors, on sait que les thèses principales de Dewey sont tout d'abord un faillibilisme intégral. Là où le cartésien cherche à fonder la connaissance sur des bases absolument certaines, la marque de la certitude étant l'évidence et l'intuition, l'anti-intellectualiste, comme Dewey aime à s'appeler, ou l'instrumentaliste, c'est l'autre terme par lequel il a défini sa philosophie, même si par la fin il a souhaité s'en démarquer un peu parce que ça avait peut-être des connotations non désirables, comme on va voir dans la critique de Russell. Donc, l'anti-intellectualiste qui s'oppose aux cartésiens soutient que toutes les croyances sont faillibles et corrigibles. On va voir la différence entre les deux tout à l'heure. En conséquence, la tâche de l'épistémologie n'est pas de donner une analyse des conditions de la connaissance certaine, mais de donner une analyse de la croyance rationnelle et garantie. L'idéal de certitude absolue est vide, tout comme celui de la vérité, qui doit se définir comme la certabilité garantie. La théorie de la connaissance ne porte pas sur les conditions de la connaissance, mais sur celle de l'enquête. Et donc, Dewey entend remplacer la notion de connaissance par celle d'enquête. Si bien que lorsqu'il parle de connaissance dans le livre sur la quête de la certitude, en réalité, il ne parle pas tellement de la connaissance, et c'est un peu un des points que je voudrais mettre en avant. Il parle de l'enquête. Et l'enquête, ce n'est pas tout à fait la même chose que la connaissance. Évidemment, l'enquête est supposée vous donner des connaissances, parce que lorsque Sherlock Holmes fait une enquête, à la fin, en principe, il est supposé trouver le coupable. Mais quand on lit les descriptions que donne Dewey de l'enquête, on a un peu l'impression que l'enquête est une sorte d'enquête sans fin qui pourrait ne jamais trouver son point d'aboutissement. Donc l'enquête n'est pas définie par Dewey comme la recherche de la vérité, et la vérité n'est pas le but de l'enquête. Elle est définie en réalité par ce qui est instrumentalement bon. Alors, je vais prendre la traduction de Joël Zask dans l'édition de Gallimard qui est parue il y a 2 ans, de La quête de la certitude. Voici ce que dit Dewey. Il dit, si nous voyons que le connaître n'est, c'est page 212 de la traduction, si nous voyons que le connaître n'est pas l'acte d'un spectateur se tenant en dehors de la scène naturelle et sociale, mais l'acte d'un participant, alors le véritable objet de la connaissance se situe au niveau des conséquences de l'action dirigée. Quand nous adoptons ce point de vue, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, les perplexités et les difficultés dont nous avons parlé disparaissent. Sur cette base, nous aurons en effet autant d'objets connus qu'il y a de genres d'opérations d'enquête efficacement menées, débouchant sur des conséquences visées. Le résultat d'une opération quelconque sera un objet de connaissance aussi bon et vrai, notez le glissement, aussi bon et vrai que tout autre objet, pour autant qu'il soit bon au sens où il satisfait les conditions qui ont induit l'enquête. Si les conséquences sont en effet l'objet de la connaissance, alors une réalité antécédente archétypique n'est pas un modèle auquel les conclusions de l'enquête doivent se conformer. On pourrait même aller jusqu'à affirmer qu'il existe autant de genres de connaissances valides qu'il y a de conclusions pour le bénéfice desquelles on a employé des opérations distinctes dans l'idée de résoudre des problèmes ayant surgi au sein de situations dont on a fait antérieurement l'expérience. Les opérations appliquées à différents problèmes ne se répètent en effet jamais exactement les unes les autres et ne produisent pas exactement les mêmes conséquences. Pour ce qui est de la théorie logique, toutefois, les opérations relèvent de genres ou de théories données. Alors là, voici un peu d'anglais pour vous détendre. Donc ça, c'est la première thèse je viens de donner la traduction de ce texte, le faillibilisme intégral. La deuxième thèse de Dewey, c'est l'idée de la connaissance comme action et donc l'anti-intellectualisme. Selon cette thèse, la connaissance est dirigée vers l'action, mais pas vers la vérité, et les croyances à partir desquelles nous agissons ne sont pas basées sur des certitudes établies. Et cette incertitude de l'action se transfère à la connaissance. En fait, le syllogisme de Dewey, c'est l'action, c'est la connaissance. Dans l'action, on ne sait pas très bien où on va, on est un peu incertain. Donc l'action est incertaine, la conséquence elle-même doit hériter de l'incertitude de l'action. C'est normal vu qu'elle est l'action. Je vous rappelle, j'ai cité à l'instant ce texte dans lequel on nous parle de la conception du spectateur de la connaissance, c'est-à-dire « the spectator theory of knowledge » à laquelle s'oppose Dewey. Il faut renoncer à cette conception, nous dit-il. Et le but même de la connaissance, c'est de persister en vue de l'action. En fait, comme je viens de le dire, la connaissance est elle-même une forme d'action. Et c'est pour ça que Dewey insiste sur le fait que, à la place de la connaissance, on va mettre la méthode. Et la méthode, c'est ce qui sert, en fait, à obtenir les connaissances. On va voir, par exemple, ce qu'il dit, page 216, c'est toujours dans le même chapitre que je cite beaucoup, « La naturalisation de l'intelligence ». Page 216 de la traduction, les propos pourraient sembler étranges, mais il faut y voir qu'une manière de dire que la valeur de toute conclusion cognitive dépend de la méthode grâce à laquelle on l'atteint, de sorte que le perfectionnement de la méthode de l'intelligence est la chose qui vaut suprêmement. Et ainsi de suite. Je ne vais pas citer tout le texte, mais c'est important de parler de la méthode parce que, précisément, les philosophes infaillibilistes, ceux qui s'opposent à Dewey, et dont je vais parler dans un instant, qui disent que c'est la garantie qui crée la vérité, utilise aussi cette notion de méthode. Mais pour Dewey, la méthode, en quelque sorte, elle est comme les chemins de Heidegger, elle mène nulle part. Sinon, à des résultats, effectivement, qui sont socialement efficaces. Alors ça, c'est la troisième thèse principale de Dewey, c'est la connaissance comme expérience d'un organisme social. Le sujet de la connaissance n'est ni un sujet, ni un objet, c'est un organisme, un être sentant et incarné, embodied s'il vous plaît, susceptible d'expérience. C'est en outre un sujet social et non pas un sujet individuel. Ce sujet est essentiellement impliqué dans un monde technique à travers des artefacts et des instruments cognitifs. Alors, il y a 3 sortes de conséquences qui suivent de ces principes trois principes du Weiyin. La première, c'est que donc, en fait, nous savons peu de choses, et que l'incertitude et la fiabilité qui sont propres à l'action, et la faillibilité, ce qui sont propres à l'action, se transposent à la connaissance, laquelle n'est pas évidemment fondée sur des principes certains, et elle est nécessairement, de ce fait même, vague et indéterminée. Alors c'est intéressant de voir notamment un passage, encore un glissement, quasiment du type toboggan, que Du Wei fait entre l'incertitude dans le monde physique, dont parle la mécanique quantique, donc ce livre, La quête de l'incertitude, ce sont les Gifford Lectures de Du Wei pour, je crois, 1929, qui sont donnés à des penseurs dont les thèses peuvent, selon le jury des Gifford Lectures, avoir des implications religieuses. Je vous signale, entre parenthèses, que Bruno Latour a lui-même donné récemment les conférences en question, les Gifford Lectures. Donc il y a des points communs. L'idée c'est que de Du Wei, c'est que les fameuses relations d'incertitude de la vitesse et de la localisation d'une particule s'appliquent à la connaissance elle-même. Autrement dit, la connaissance de la réalité et la réalité elle-même sont indéterminées parce que la première l'est. Donc ici, il passe de cette idée que l'action, la connaissance et la réalité sont elles-mêmes incertaines. Donc, je vois là-dedans une forme d'idéalisme que Russell va noter très fermement dans sa critique. Et puis, la toute dernière conséquence de ces thèses de Du Wei, c'est qu'il n'y a pas à faire de distinction entre la théorie et la pratique, entre la raison théorique et la raison pratique. Alors voyez par exemple ce que Du Wei dit dans page 230, dans toujours la quête de la certitude, « Prendre acte que l'observation nécessaire à la connaissance s'insère dans l'objet naturel connu abolit cette distinction entre le connaître et l'agir. Cela rend possible et exige une théorie établissant que les deux sont intimement connectés. Comme nous l'avons dit, elle commande par suite l'exercice de l'intelligence au sein de la nature. » Elle fait partie intégrante des interactions connues propres à la nature. Coupée de l'intelligence, ces changements sont anarchiques. Ce sont des effets, mais non des conséquences, car les conséquences impliquent l'emploi délibéré de moyens. Quand une interaction survient et dirige le cours d'un changement, la chaîne de l'interaction naturelle reçoit une qualité et une dimension nouvelle. L'intelligence est précisément le type d'interaction qui s'y trouve ajoutée. L'activité intelligente de l'homme n'est pas quelque chose qu'on applique de l'extérieur de la nature, c'est la nature réalisant ses propres potentialités à la faveur d'une série plus foisonnante et plus riche d'événements. Alors c'est un naturalisme de nature assez aristotélicienne, mais qui sent à plein nez Hegel. Alors, que peut-on dire sur ces thèses de Du Wei ? Donc voilà ce qu'il nous disait à l'instant et mon commentaire. Ce qu'on peut dire de ces thèses de Du Wei me semble avoir été dit dans une très large mesure par Bertrand Russell dans les critiques qu'il a faites et que je viens de mentionner. Russell attaque le vérificationnisme de Du Wei dans l'Inquiry into Meaning and Truth et tout d'abord il note que la vérité n'est pas l'assertion garantie. Et on peut le voir parfaitement quand on considère la double négation, le fait qu'on ne puisse pas prouver ou faire l'assertion garantie, que l'on ne peut pas prouver ou faire l'assertion garantie qu'il y a un monstre du Loch Ness, n'implique pas qu'on ne puisse pas prouver, que l'on puisse prouver ou asserter de manière garantie que le monstre du Loch Ness existe. La conception vérificationniste traite la vérité comme une forme de croyance justifiée et la fausseté comme une absence de justification. Et donc, elle confond, nous dit Russell, ça c'est une constante de toutes ces analyses de la vérité, aussi bien de celle de James dans les années 1900 que de celle de Du Wei quelques 50 ans plus tard, on confond le critère et le test de la vérité d'une part avec la définition ou la signification de la vérité. Russell illustre ce cas avec celui de la surprise. Voici ce qu'il nous dit. Le test de l'erreur, c'est la surprise. Quand vous avez fait une erreur, vous êtes surpris. Si vous vous trompez sur quelque chose, quand vous découvrez votre erreur, vous serez surpris. C'est donc un bon critère de l'erreur, de fait. Mais ça ne peut pas pour autant définir la fausseté. Supposez, nous dit Russell, que vous vous promeniez dans la forêt pendant un orage et que vous vous disiez « Je n'ai aucun risque d'être frappé par la foudre. » Mais voilà, en fait, que vous êtes frappé par la foudre. Boum. Votre croyance est fausse, mais vous ne faites l'expérience d'aucune surprise, car vous êtes mort. Donc, ça c'est le premier point. Deuxièmement, Russell fait remarquer que la définition de la connaissance comme action est problématique si on prend, comme on le fait Dewey, la croyance comme un plan d'action. Alors ici, manifestement, Dewey suit l'héritage persien et de Alexander Bain de la croyance comme disposition à l'action. Maintenant, et c'est évidemment c'est un énorme chapitre à ouvrir dans la philosophie contemporaine, et je ne fais que simplement juste mouiller mon doigt sur une des pages, s'il est clair que les croyances font certainement partie de plans d'action, est-ce qu'on peut définir uniquement l'action comme un plan, la croyance comme un plan d'action ou une disposition à agir? J'avais l'intention au départ de parler un petit peu des théories de ce qu'on appelle l'empiètement pragmatique, mais il me semble que dans un certain nombre de ces théories de l'empiètement pragmatique, il y a quelquefois un glissement aussi qui se produit entre l'idée que la croyance est une disposition à agir et l'idée que la croyance fait partie d'un plan d'action. Que la croyance puisse faire partie d'un plan d'action, tout le monde est prêt à le reconnaître, mais que la croyance soit elle-même un plan d'action, c'est un problème. C'est notamment quelque chose qui sous-tend la fameuse métaphore de Ramsey que « beliefs are maps by which we steer ». Car vous pouvez lire cette métaphore de deux manières, vous pouvez la lire soit comme signifiant que les croyances sont elles-mêmes des navigations, soit comme signifiant que les croyances sont des plans, c'est-à-dire quelque chose de cognitif, qui aide à notre navigation. Je pense que Ramsey l'entendait dans le second sens, mais il y a beaucoup de pragmatistes qui, en quelque sorte, passent de l'un à l'autre. Et comme je le dis, troisième point donc, que critique également Russell, c'est au fait que à la notion de connaissance, Dewey substitue la notion d'enquête. Il définit, et c'est une citation ici que Russell fait de Dewey, l'enquête comme... Attendez, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là. Je cite, je l'ai pas mis... enquête, je vais le dire en anglais, pardon. The control or directed transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified whole. Et donc, en ce sens-là, il définit la vérité comme une forme d'adaptation de l'organisme à l'environnement. Mais outre nous dire seul que ça trahit une forme d'hégélianisme et de culte des unités organiques dont toute la pensée de Dewey porte la marque, ça a comme conséquence de supprimer tout élément cognitif dans la relation entre le sujet et l'action. Alors il y a ici un aspect très intéressant de l'opposition entre Russell et Dewey, qui à mon avis est une opposition entre la philosophie analytique et Dewey, c'est que Russell considère que la connaissance est basée sur des propositions. Dewey considère que la connaissance, c'est une relation avec des choses et avec des événements, mais pas avec des propositions. Donc évidemment, si vous enlevez les propositions, vous n'avez plus d'items qui sont susceptibles d'être vrais ou faux. Comme le dit Russell, Dewey, la définition de la vérité va être simplement définie comme étant ses effets. Dites-moi, j'en suis à quel point? D'accord, alors il vaut mieux que je ne fasse pas cette longue citation de Russell, dans laquelle il laisse entendre que, en fait, étant donné que l'enquête est définie par ses effets et non pas par ses causes, pour Russell, les croyances se définissent par leurs causes, mais pas par leurs effets. Pour Dewey, les croyances se définissent par leurs effets, et ces effets peuvent être bons ou mauvais. Il s'ensuit que si vous souhaitez avoir des enquêtes dont les résultats sont bons, le résultat de votre enquête va être dirigé de façon téléologique parce que vous considérez comme étant bon et non pas parce que vous considérez comme étant vrai. Résultat, effectivement, c'est la même critique que celle qui fait du pragmatisme de James. La notion de vérité se trouve dissoute dans celle d'utilité de l'enquête. Alors cette objection russellienne met en évidence combien Dewey s'oppose profondément au cartésianisme. Un cartésien comme Russell, ou comme les philosophes réalistes d'Oxford, qui, dans l'autre centre britannique, étaient eux aussi cartésiens dans les années 20-30, à savoir Cook-Wilson, plutôt Cook-Wilson, c'était les années 10, et H.A. Pritchard, ne pas confondre avec Duncan Pritchard, ces cartésiens opposaient fortement croyance et connaissance. Ils n'admettent pas, ces philosophes, pas plus que Descartes, qu'on puisse définir l'un par l'autre. Beaucoup de présentations de Descartes nous parlent de la croyance chez Descartes et demandent si la croyance chez Descartes peut devenir une connaissance. Non, elle ne peut pas. Ce sont deux états qui sont aussi différents l'un de l'autre que peuvent l'être la craie et le fromage. Donc, je vais revenir dans un instant sur cette idée-là. Dewey, au contraire, définit entièrement la connaissance en termes de croyance. Maintenant, mais même si l'opposition de Dewey au cartésianisme est radicale, vous devez noter aussi que les cartésiens, qu'ils soient de l'espèce rationaliste comme Descartes lui-même, et en principe ce qu'on appelle les grands cartésiens, ou de l'espèce empiriste comme les empiristes classiques, ils n'ont néanmoins pas de vrai désaccord avec Dewey sur le fait qu'on sait finalement très peu de choses. Parce que Descartes ne soutenait pas du tout que la connaissance ordinaire puisse être certaine. Au contraire, il soutenait que les croyances de sens commun ne pouvaient pas servir de base à la connaissance. Et en ce sens-là, Descartes s'oppose totalement au philosophe du sens commun de la génération suivante. Il opposait la croyance à la vera scientia, seule susceptible de certitude. Donc selon Descartes, seul ce qui est produit, le produit de l'évidence des idées claires et distinctes et de l'intuition des vérités nécessaires est connu. Le reste n'est que probable. De même pour les empiristes classiques, seul ce qui est l'objet immédiat de la sensation ou de la réflexion est connu. Selon la conception cartésienne en général, qu'elle soit rationaliste ou empiriste, ni ce qui porte sur le monde matériel, ni ce qui porte sur l'esprit d'autrui, ni sur les lois de la nature n'est réellement connu. Ce ne sont, comme le dira Russell, que des entités inférées. Et donc il s'ensuit que presque tout ce qui relève des intérêts pratiques est également soumis à l'incertitude. Donc, je voudrais rapidement indiquer en quoi ces thèmes deweyens s'opposent à l'orientation récente de l'épistémologie. Ces thèses ne paraissent révolutionnaires que si vous supposez, comme le fait toute la tradition antérieure au pragmatisme, c'est-à-dire toute la tradition rationaliste et empiriste, que la connaissance doit être infaillible et certaine. Infaillibilité et certitude ne sont pas la même chose, mais il est aisé, quand vous vous placez dans le cadre cartésien et post-cartésien, de les confondre. Sans entrer ici dans les subtilités de la notion d'infaillibilité que je laisse aux autres exposés, on peut dire que l'infaillibilité est pour la connaissance l'impossibilité de se tromper ou la garantie du vrai. Comme l'a fait remarquer David Lewis dans la citation que Claudine Tiercelin a donnée, ça paraît presque contradictoire d'être faillibiliste. Une autre manière de le dire, c'est que la factivité du savoir, le fait que la connaissance est factive, entraîne l'impossibilité d'être dans l'erreur, et en ce sens, l'infaillibilité. Mais la certitude n'est pas la même chose que l'infaillibilité. La certitude, c'est la marque de la vérité, ou le pédigré, si vous voulez, d'une croyance qui fait que vous puissiez la tenir comme vraie, que vous le puissiez soit en étant en possession de ce pédigré, soit en n'étant pas en possession de ce pédigré, ce qui explique les oppositions entre les théories internalistes et les théories externalistes de la connaissance. Alors, comme le disait Frege, il ne faut pas confondre la vérité avec la reconnaissance de la vérité. Les cartésiens le confondent, non pas parce qu'ils feraient une erreur particulière, mais pour des raisons tout à fait sensées de leur point de vue, parce qu'ils tiennent la certitude comme la marque intérieure, c'est-à-dire en termes traditionnels, comme le critère de la vérité. La présence en nous, accessible à la conscience réflexive d'une marque du vrai, la clarté et la distinction, ou une forme d'intuition immédiate, est le critère de l'absence de l'erreur. Pour les empiristes, ça s'applique aux impressions sensorielles, qui, quand on les passe sous le crible de la réflexion, sont aussi certaines que le sont les idées claires et distinctes, selon Descartes. Donc, selon la conception cartésienne et empiriste, le critère de vérité implique la vérité objective. Autrement dit, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas la discussion qu'il y a entre Descartes et Arnaud dans les objections et réponses. Et donc la distinction qu'on fait aujourd'hui couramment entre la certitude subjective et la certitude objective n'a pas lieu d'être pour Descartes. Descartes et la tradition cartésienne font une distinction entre la certitude, entre trois sortes de certitudes. Entre parenthèses, si vous voulez une présentation très très bonne de ça, lisez Durkheim. Durkheim a été professeur de philosophie en classe terminale à Sens, au lycée de Sens, et on trouve sur internet ses cours de philosophie, et il a un cours qui s'intitule « Certitude et vérité ». Et traduisant Descartes et à toute une tradition de la philosophie cartésienne, Durkheim nous dit qu'il y a une distinction entre trois sortes de certitudes. La certitude mathématique, celle qui relève de la preuve, comme la certitude logique, le fait de pouvoir prouver par une démonstration a priori une proposition. La certitude physique, qui est en fait ce que l'on appelle habituellement la certitude subjective, la certitude qui est donnée par l'évidence. Et donc, par exemple, le cogito est l'objet d'une certitude physique. Ça paraît bizarre de dire que c'est ça, mais ça plaira certainement beaucoup à ceux qui aiment la cognition incarnée. Et la dernière sorte de certitude, c'est la certitude morale. La certitude morale, c'est la certitude qui est propre uniquement à ce qui se passe dans l'action. Et c'est assez intéressant de voir, justement, et ceci est le lien avec les conférences Gifford, que Dewey abandonne la certitude physique, il abandonne la certitude mathématique, tout comme Peirce, comme Claudine Tiersolin le disait, mais il garde la certitude morale. Alors, et donc il rejoint ainsi, en ce sens-là, le philosophe français peut-être le plus ignoré et le plus oublié de notre temps, Léon Olé-Laprune, auteur de la certitude morale, dans lequel il explique, à l'instar du cardinal Newman, que la seule vraie certitude qu'il nous reste, c'est celle de la foi, c'est la certitude fidéiste. Et donc, en rejetant la conception cartésienne selon laquelle la garantie des idées et la certitude du sujet connaissant impliquent la vérité, Dewey adopte, à la suite de Peirce, la conception de la connaissance qui va devenir dominante au XXe siècle, celle selon laquelle la garantie de la vérité, ou ce que l'on appelle dans l'épistémologie anglo-américaine la justification, n'implique pas la vérité. Il renonce ainsi à ce qu'on appelle en termes contemporains la conception infaillibiliste de la connaissance. Alors, comme l'a montré Julien Dutemps dans un article remarquable de l'année dernière, la principale raison pour laquelle les philosophes à partir du XVIIIe siècle, en gros depuis la philosophie du sens commun de Claude Buffier et de Thomas Reid, reprise par les idéologues et Victor Cousin, la raison principale pour laquelle ces philosophes ont renoncé à la conception infaillibiliste, c'est qu'elle introduit la menace sceptique comme le loup dans la bergerie. Et Dewey formule explicitement cette critique, alors là je ne vais pas donner le passage, mais voyez page 208 de la quête de la certitude, où il nous dit qu'il est, lui, le meilleur rempart contre le scepticisme. Alors c'est une leçon, comme on le sait, qui est aussi celle du problème de Gaétier, et on peut évidemment, du temps le fait, traduire la problématique de Dewey et du pragmatisme en termes Gaétier. Non, je reproche essentiellement à du temps, dans son histoire qu'il a faite, en quelque sorte de la préhistoire du problème de Gaétier, de ne pas dire un mot de Peirce, du pragmatisme, finalement pas non plus de Reid, et donc de laisser un pan complet de cette histoire sous le boisseau. Donc Dewey, quant à lui, en termes gaétieriens, assimile la croyance justifiée à l'assertion garantie, ou plus exactement à l'enquête validée. Mais il n'admet pas que l'enquête validée entraîne la vérité, comme on l'a vu. Il est donc faillibiliste exactement au sens où Dewey montre que l'on doit l'être, au sens où le fait d'avoir des croyances justifiées n'implique pas qu'on ait des croyances vraies. Autrement dit, Dewey, c'est Gaétier. Il montre qu'on peut séparer la vérité et la justification, sauf qu'il appelle justification l'acceptabilité garantie. Alors évidemment, le problème dans cette affaire, c'est que Dewey... Le problème de Gaétier ne se pose pas dans le contexte d'une conception faillibiliste. Tout le monde en tire une conséquence faillibiliste, mais le problème de Gaétier, les philosophes ont cherché à y répondre en devenant non faillibiliste, en devenant infaillibiliste, c'est-à-dire en cherchant à la place de la certitude, une forme quelconque d'implication de la garantie du vrai vers la vérité, ce que Trenton Merricks a appelé warrant entails truth. Ça, c'est aussi un papier très important que Julien Dutemps m'a fait lire et que je trouve très éclairant. Alors depuis cette époque-là, les philosophes ont admis trois principes qui vont sûrement être discutés dans le cadre de ce colloque. Le premier, je vais l'appeler le principe de Unger. Si on sait que P, alors on est pleinement certain que P. Pleinement. Parce que habituellement, la certitude est une affaire de degré. Mais un auteur comme Unger, qui veut, lui, défendre le scepticisme, dit que certain, c'est exactement comme le terme plat. C'est absolument plat. Autrement dit, si vous avez votre pneu à plat, votre pneu est réellement flat. Flat tire. Il n'est pas à moitié à plat. La connaissance, c'est pareil. Si vous êtes certain, vous êtes pleinement certain. Et donc, évidemment, vous voyez tout de suite qu'à partir du moment où vous mettez la barre si haut, le scepticisme arrive. Deuxièmement, le deuxième principe des philosophes contemporains infaillibilistes, c'est que la certitude au sens de la connaissance, c'est la norme de l'assertion et de la croyance. Et donc, je ne vais pas commenter ça, beaucoup en parleront, je suppose. Et le troisième, c'est ce qu'on peut appeler le principe de Sosa. X sait que P n'aurait pas pu aisément se tromper. Alors, je veux simplement indiquer que est-ce que la sécurité implique l'infaillibilité? Vous vous souvenez que Macbeth avait peur de Banquo, hein, et qu'il disait « To be thus is nothing, but to be safely thus. Our fears in Banquo stick deep, and is his royalty of nature reigns that which would be feared. It is much he dares, and to that dauntless temper of his mind, he has a wisdom that does guide his valor to act in safety. » Donc le principe de Macbeth, c'est le principe de Sosa. Le problème, c'est, est-ce que pour autant Dewey est coupable des mots que Russell ou un certain nombre d'autres philosophes peuvent nous avoir donné? Est-ce qu'on n'a pas été injuste envers Dewey? Je vais aller très vite ici. Je voudrais simplement faire remarquer deux choses. On peut avec... est-ce que j'ai ici mon... Non, je n'ai pas ici ce texte. Excusez-moi, je croyais l'avoir mis. Dans un texte, dans un livre et un texte très important, le seul épistémologue deweyien sérieux de nos jours, qui est Isaac Levi, dans un livre qui s'appelle Pragmatism and Inquiry, a voulu défendre Dewey contre les méchantes attaques que je viens d'évoquer. Il nous dit qu'il ne faut pas confondre l'incorrigibilité avec la faillibilité. Et dans une certaine mesure, c'est ce que a soutenu Claudine Tiercelin. Ce n'est pas parce qu'on a une conception de l'enquête comme en permanence ouverte que pour autant il n'y a pas des croyances que nous considérons comme étant une possibilité sérieuse et des croyances que nous maintenons comme si elles étaient des connaissances. Autrement dit, des croyances qui nous permettent de rester relativement stables. Si vous défendez les conceptions comme celle de Rorty, l'image de la connaissance que nous avons est celle d'une espèce de sable mouvant permanent où on est certain de rien et où on est un peu comme Macbeth, toujours en train de se demander s'il n'y a pas, si on ne va pas être, si le poignard qu'on a ne va pas nous tomber des mains, etc. Mais Levi dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre Dewey. Il faut comprendre Dewey comme ayant défendu une certaine forme, peut-être, de sécurité. Et le terme de sécurité intervient dans la quête de la certitude. C'est ce que Dewey traduit par la notion de contrôle. Pour les Persiens, pour les pragmatistes, il y a quelque chose comme du contrôle. Maintenant, est-ce que le contrôle est contrôlé? Est-ce qu'il n'est pas lui-même « out of control » pour reprendre les termes de Mick Jagger? Eh bien, est-ce que, justement, il y a ce problème-là? Alors, il me semble que on a peut-être été injuste envers Dewey en ne faisant pas cette distinction, c'était ça la slide que je voulais, la distinction entre corrigibilité, c'est quelque chose qui est ouvert à la modification, et la faillibilité. Alors, la définition deweyenne que donne Isaac Levi, c'est que la connaissance, c'est la certitude, mais la certitude au plus haut degré. C'est-à-dire, la connaissance, c'est ce qu'il appelle « full belief ». D'autres philosophes ont employé des notions comme celle d'acceptance, Et donc, nous dit Levi, il faut défendre la conception de la connaissance selon laquelle tous les agents rationnels devraient croire pleinement et par conséquent admettre qu'on sait que P, si et seulement si P, si seulement si on croit pleinement que P, et qu'il est vrai que P. Donc, il remplace la notion de justification, ou il remplace la notion de fiabilité, ou il remplace la notion d'une marque de vérité par la notion d'assentiment complet. Évidemment, nous avons à ce moment-là la pleine et entière réalisation de la fameuse maxime de Ramsey sur laquelle il n'y a pas de problème de la vérité, il y a juste un problème du jugement. Plus vous avez effectivement des jugements qui sont sûrs, plus vous avez la connaissance. Mais cette conception de la connaissance comme croyance vraie, évidemment, est totalement à l'opposé de la conception cartésienne des réalistes d'Oxford comme Cook Wilson et H.A., il s'appelait Harold Pritchard, qui disait que la connaissance et la croyance sont deux choses différentes. Et ça, c'est très intéressant à voir parce que Isaac Levi, dans son article sur Dewey, s'attaque de front à Williamson. Rappelez-vous que Williamson, dans son livre sur la connaissance, dit que la connaissance est un état mental, mais la croyance vraie n'est pas un état mental. Or, de Isaac Levi découle toute la tradition très vivante aujourd'hui de ce que l'on appelle la théorie des changements de croyance. Les conceptions qui sont défendues par les Peter Gardenforce, par Hans Roth, par Eric Olson et par toute cette tradition scandinavo-germanique, ou par Wolfgang Spohn, qui défendent l'idée qu'on a juste besoin d'une théorie de la croyance vraie. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement ébouriffés par la définition de la connaissance comme croyance vraie de Crispin Sartwell, qui est un maverick américain qui a défendu cette idée-là. Mais en fait, si on y regarde de près, c'est cette point. Mais alors, donc, ça veut dire effectivement qu'il faut abandonner l'idée que la connaissance est un état mental et il faut abandonner cette forme de cartésianisme. Alors, j'aurais voulu montrer, si j'avais eu du temps, qu'il ne faut pas l'abandonner, cette forme de cartésianisme, mais je n'ai pas le temps.